Bonjour Joseph Stiglitz.
Nice to be here.
Votre dernier livre intitulé L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe aux éditions Les Liens qui Libèrent, sort aujourd'hui même en France. C'est une charge sévère contre l'euro, mal conçue dès le départ, dites-vous, et finalement responsable d'une grande partie de nos difficultés.
That's right. It was flawed from birth.
C'est exact, c'était vraiment mal embranché depuis le début. La mauvaise performance de l'Europe depuis la crise financière mondiale de 2008 ont été absolument terribles. Et vous pouvez voir que les pays de l'Europe qui font partie de la zone euro ont fait pire que les pays qui ne font pas partie de la zone euro. Donc l'Europe à la même productivité, les mêmes ressources, les mêmes institutions qu'elle ne l'avait avant la crise. Alors comment expliquer les mauvaises performances et la dépression dans certains pays qui sont pires que la Grande Dépression des années 30? Et la meilleure explication, c'est l'euro. Pas simplement la devise, mais toute la structure institutionnelle qui met des contraintes et des limites sur ce que les gouvernements de chaque pays peuvent faire.
L'erreur fondamentale que vous expliquiez, au fond, c'est d'avoir fait les choses à moitié.
Tout
à fait. Ou alors il faut plus d'Europe ou moins d'Europe. Soit il faut créer les bonnes institutions comme garantie de dépôt pour les banques, des façons communes partagées de s'occuper des banques en difficulté, des obligations européennes, des eurobonds, une banque centrale qui mettrait l'accent non pas simplement sur l'inflation, mais sur l'emploi et la croissance. Ça, c'était les erreurs en fait qu'on n'a pas pu faire les choses correctement pour que la devise unique fonctionne. Donc, soit il faut développer ces institutions, ce qui, à mon avis, est la meilleure solution, ou alors réfléchir à une façon d'avoir une sortie de l'euro. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une monnaie unique, d'avoir deux ou trois monnaies au sein de l'Europe. Et ce système de monnaie unique qui lie tous les pays de l'Europe a très clairement ne fonctionne pas.
Alors vous vous en prenez aussi, et c'est l'une des erreurs que vous dénoncez, à l'obsession, voire le fétichisme des déficits.
Exactly. The idea, very common,
l'idée est extrêmement répandue à l'époque de la création de l'euro en 1992, c'était que si le gouvernement faisait son travail, le marché s'occuperait du reste. Le gouvernement devait restreindre le déficit, la dette. Ils ont vraiment cherché des chiffres qui sont tombés du ciel, 3% pour le déficit, 6% pour la dette. La Banque centrale devait maintenir le déficit au minimum, mais nous savons maintenant que ces idées étaient fausses. L'Irlande, l'Espagne avaient des surplus, pas des déficits, et pourtant ils sont en crise. Donc, l'obsession du déficit n'évitera pas une nouvelle crise. Et maintenant, l'obsession, c'est d'empêcher la reprise.
Puisque les pays n'ont plus les moyens de dévaluer leur monnaie, c'est une chose que vous expliquez dans votre ouvrage, ils sont contraints de pratiquer ce que vous appelez des dévaluations internes, c'est-à-dire des politiques de baisse des dépenses publiques, de réduction des coûts salariaux, qui, finalement, aggravent encore les problèmes.
Exactly, and there's an alternative.
Il y a une alternative à cela.
L'alternative, c'est
d'accroître les prix dans les pays qui ont des surplus. Dans les pays qui ont des surplus, c'est-à-dire dépenser plus. Donc l'alternative, ce serait que l'Allemagne augmente son salaire minimum. Il n'avait même pas de salaire minimum en Allemagne précédemment. et d'avoir plus de dépenses, ce qui accroîtrait leur prix par rapport aux pays plus pauvres, aux pays plus faibles. Ça serait une solution nettement meilleure que la politique actuelle de contraindre la déflation. Et nous savons que la déflation ne fonctionne pas, ça a un coût extrêmement cher. Malheureusement, l'Allemagne semble refuser cette solution qui est nettement meilleure.
Est-ce que vous êtes d'accord avec la formule employée par certains adversaires de l'euro qui disent que la monnaie doit être au service de l'économie, mais qu'avec l'euro, on a fait le contraire, on a mis l'économie au service de la monnaie?
Yes, the currency was a means to
an end. La monnaie, la devise unique, c'était un moyen pour arriver à une fin. La fin, c'était que l'euro amènerait à plus de prospérité et à plus de solidarité dans l'Europe. Eh bien, cette solidarité aiderait l'Europe à se sentir plus forte, on agirait ensemble et ça mènerait à une convergence. Mais le moyen est devenu une fin en soi, en dépit du fait que l'euro a mené à des divergences et à des divisions et n'a pas mené à la prospérité.
Certains disent même que l'euro est devenu comme une religion.
C'est devenu une religion, une idéologie, une fin en soi. Vous savez, c'est juste un petit morceau de papier, une devise, mais c'est simplement un instrument social. Nous l'avons créé pour servir la société. Et si ça ne sert pas la société, alors il faut changer à le penser, à le modifier. Vous savez, l'imperfection rend les institutions imparfaites. Et quand les institutions sont imparfaites, eh bien, il faut changer les institutions.
Et pour vous, cet entêtement, cet acharnement qui a été mis à sauver l'euro ne repose pas sur la conviction que c'est un outil vraiment utile et bénéfique à l'Europe, mais d'une pure idéologie.
Exactly.
Tout à fait. C'est devenu une idéologie. Il y a aussi une théorie politique. La théorie politique, c'est que si vous abandonnez l'euro, vous allez abandonner le projet européen et ça sera la fin de l'intégration européenne. Mais cette théorie, je pense qu'elle est fausse. Je pense que l'euro, parce qu'il affaiblit la prospérité et crée la division, est en train de torpiller le projet européen et donne place aux partis de droite qui veulent mettre un terme au projet européen. L'idée que je soutiens, c'est que soit il faut avoir plus d'Europe, qu'il y ait ces institutions qui feront fonctionner l'euro, c'est la meilleure solution, ou alors il faut abandonner l'euro pour sauver le projet européen.
Alors parmi les solutions que vous proposez, il y aurait la mise en place de deux euros, l'un pour les pays du Nord, l'autre pour les pays du Sud. Est-ce que les différences ne resteraient pas tout de même encore trop fortes finalement entre les pays dans la zone sud ou dans la zone nord?
Peut-être qu'il faudrait plus de 2 euros différents. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'il y ait un regroupement de pays qui sont semblables, suffisamment similaires en termes d'économie et en termes de façon commune de voir l'économie et le sentiment de solidarité pour qu'au sein de ce groupe, vous puissiez avoir une monnaie unique qui fonctionnerait. Il créerait les institutions qui ferait que ça fonctionne. Ce type de division aiderait, en fait, à la convergence de toutes les parties. Parce que les pays du Sud, par exemple, avec un taux de change plus bas, pourraient croître plus rapidement. Donc le système actuel mène à la divergence. Le système que je soutiens, que je suppose, que je suggère, mènerait à la convergence.
Dans l'hypothèse d'un euro du Nord et d'un euro du Sud, lequel la France devrait-il adopter?
Je crois que ça aurait du sens pour la France de prendre l'euro du Sud, parce que la philosophie et les croyances en France sont beaucoup plus proches du Sud L'Allemagne croit en l'austérité. C'est l'idée que le reste du monde a déjà rejeté cette idée d'austérité. L'idée que, en restreignant la ceinture, en se tirant sur la ceinture, on va pouvoir aller à la croissance. C'est faux. Ça a été démontré que c'était faux. Mais l'idée que si vous pouvez faire croître l'économie, le PIB va descendre. Donc, c'est la politique suivie par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Nous avions 130% de taux de dette par rapport au PIB, le double de la crise. Mais ce que nous avons fait croître l'économie par des dépenses extrêmement fortes sur l'éducation, la technologie, les infrastructures. Et parce qu'on a fait croître l'économie, le taux dette sur PIB est passé de 130 à moins de 50%. Donc, c'est la solution. Il faut faire croître l'économie, pas contracter l'économie.
Merci, Joseph Stiglitz.
Thank you very much.